Merci de m'avoir invité à revenir à Amiens et à parler de Jules Verne, de Pierre-Jules Hetzel, vous voyez le lapsus. Non pas de Jules Verne, mais de Pierre-Jules Hetzel. Au départ, j'avais quelques scrupules, parce qu'au fond, j'ai l'impression, peut-être est-ce lié à l'âge, d'avoir déjà tout dit. Et il n'est pas aisé de revenir sur un sujet, même quand on le maîtrise bien. En introduction, je voudrais justement évoquer avec vous la recherche concernant Pierre-Jules Hetzel. Il y a 60 ans, en 1953, était publiée la première grande biographie, elle demeure une référence, la biographie publiée par, ou rédigée par André Parmeny et Catherine Bonnier de la Chapelle. Catherine Bonnier de la Chapelle, c'était la petite fille de Pierre-Jules Hetzel. C'est la maman de Fernand Bonnier de la Chapelle qui a assassiné l'amiral Darlan à Alger. C'était l'enfant unique. Et donc, les Bonnier de la Chapelle, après ce drame familial, si on oublie l'aspect historique et politique, se sont retrouvés effectivement dans une situation très complexe. Elle avait décidé de donner à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, l'ensemble des papiers Jules Hetzel. En réalité, les choses ont été un peu plus compliquées parce que la Bibliothèque nationale, dans son esprit, considérait que n'avait de valeur que les textes des écrivains et donc a laissé à la famille une partie des correspondances avec des auteurs beaucoup moins connus. Bref, on n'a pas l'ensemble des papiers Hetzel, mais on en a une partie à la Bibliothèque nationale et puis une autre partie est répartie dans divers centres. 1953, cet épais livre, je ne l'ai pas apporté parce qu'il pèse vraiment un poids important, avait l'avantage de présenter à la fois l'éditeur et de le présenter avec ses auteurs. Et l'ouvrage donnait un grand nombre de citations, parfois très longues, de George Sand, de Balzac, de Victor Hugo, de bien d'autres auteurs. 13 ans plus tard, pour être tout à fait exact, la Bibliothèque nationale, qu'on appelait ainsi à l'époque, elle n'était pas encore Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, organisait une première grande exposition dont j'ai apporté le catalogue parce qu'il est devenu une pièce relativement rare. Si vous regardez d'ailleurs la couverture, peut-être faudra-t-il la reproduire dans le volume des actes du colloque, elle met au centre l'éditeur avec un portrait très connu, et puis il y a 4 écrivains, Balzac, Victor Hugo, George Sand et Jules Verne, les 4 auteurs phares en quelque sorte. Le texte est important, il est toujours utile de le relire, de regarder. C'est un texte intelligent, bien fait. Il était rédigé par la conservatrice du département, Marie Cordroc, avec l'aide de Roger Pierrot qui allait lui succéder. C'est un document très important. Je saute un petit peu, 1980, la revue Europe, une des grandes revues de référence en littérature à l'époque, elle existe toujours d'ailleurs, la revue Europe publiée un numéro spécial, un numéro thématique consacré à Hetzel. 1980, une revue littéraire qui, à ma connaissance, auparavant et même après, n'a jamais publié de numéro consacré à un éditeur, consacre un numéro à un éditeur, dont évidemment, on a envie de dire, mais attention, il n'est pas qu'éditeur, il est aussi, mais sous le nom de P.J. Stahl, un auteur. Or ici, c'est bien Hetzel, le patronyme de l'éditeur et non pas de l'auteur, qui est mis en valeur. Et puis, 1986, à Nantes, un premier grand colloque universitaire international consacré lui aussi à Pierre-Jules Hetzel. C'est le colloque dirigé par Christian Robin et un colloque auquel ont participé tous ceux qui, de près ou de loin, travaillaient sur Hetzel et sur ses auteurs. Alors, avec ce matériau, si j'ose ajouter ma contribution dans L'argent et les lettres, histoire du capitalisme d'édition, en 1988, 2 ans après ce colloque auquel j'avais participé, dans L'argent et les lettres, j'ai consacré presque un chapitre à Hetzel, j'avais effectivement l'impression d'avoir tout dit. Alors, en retravaillant sur ces questions, je me suis interrogé sur, au fond, la manière de présenter autrement Hetzel et de ne pas répéter tout ce qui a été déjà écrit à son propos. On peut en tirer quand même une première conclusion. Il n'existe pas d'éditeur sur lequel la recherche universitaire et la recherche internationale est apportée autant d'éléments de connaissance. Si on veut comparer avec quelques grands éditeurs de l'époque, eh bien prenons les deux autres éditeurs que Roger Chartier et Henri-Jean Martin ont considérés comme emblématiques du siècle des éditeurs. Les deux autres sont Pierre Larousse et Louis Hachette. Si on regarde donc dans cette galerie de trois éditeurs, bien sûr, il existe des travaux sur Louis Hachette. Moi-même, j'ai rédigé une biographie, mais antérieurement, Jean Mistler avait rédigé un gros livre sur Hachette. Sur Pierre Larousse, il y a eu également des travaux dont l'année dernière, le livre que j'ai écrit avec un de mes anciens étudiants consacré à la librairie Larousse, mais ça ne représente pas autant de documents, autant de recherches que par rapport à Hetzel. Si on oublie les trois éditeurs emblématiques, si on regarde d'autres grands éditeurs du XIXe siècle, je pense à Gervais Charpentier, l'innovateur, celui qui a permis à l'édition française de se développer à un moment où elle était menacée par la concurrence, par le piratage que les imprimeurs et les éditeurs belges faisaient aux livres français. Sur Charpentier, on a des éléments de connaissance avec Isabelle Olivero, l'invention de la collection, mais on n'a pas l'équivalent de la somme véritablement que nous possédons par rapport à Hetzel. Hetzel est donc, si on ne regarde que l'aspect éditorial, un personnage qui se détache véritablement dans l'histoire de l'édition. Mais vous le savez bien, Hetzel n'est pas simplement un éditeur. Je reviendrai sur d'ailleurs les divers aspects de l'éditeur Jules Hetzel. Il fut aussi un agent littéraire. C'est ainsi que George Sand le considère dans les années 1848 à 1855. Agent littéraire, médiateur, intermédiaire. Il est aussi un créateur de revues. Et en effet, puisqu'on a évoqué 5 semaines en ballon, il faut immédiatement parler de sa grande revue, le magasin d'éducation et de récréation qui avait été anticipé par Les Bons Romans, la revue qu'il avait coéditée avec Michel Lévy dans les années justement qui précèdent la création en 1864 du magasin d'éducation et de récréation. C'est aussi un écrivain, nous l'avons dit, mais il ne faudrait pas négliger, j'en parlerai quand même peu aujourd'hui, l'homme politique, le républicain engagé qu'il a été, secrétaire du général du gouvernement provisoire de février 1848. Cet aspect d'ailleurs est relativement peu connu. Je me souviens d'avoir vu le cahier, mais je n'ai pas eu le temps ni de le lire ni de le travailler, le cahier manuscrit qui comprenait les notes qu'il avait prises, qu'il avait rédigées lorsqu'il était secrétaire du gouvernement provisoire. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce cahier que j'avais vu dans la maison de Hetzel construite par l'architecte Viollet-le-Duc à Sèvres, plus exactement à Meudon, mais dans la partie de Meudon qui est devenue aujourd'hui une partie de la ville de Sèvres. À l'époque, une des descendantes recevait bien volontiers les chercheurs, les faisait travailler dans le bureau de l'éditeur Hetzel, avec toute la bibliothèque, les cartonnages reliés derrière, et puis on pouvait toucher, regarder, lire, en tout cas parcourir les manuscrits. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce document qui ne me semble pas avoir été édité et qu'il faudrait bien retrouver pour avoir une vision plus complète, effectivement, du républicain Pierre-Jules Hetzel. Je n'aurai pas le temps d'évoquer toutes ces figures, mais je vais évoquer l'éditeur, l'agent littéraire et l'auteur. Je reviendrai en conclusion sur l'ensemble. Que dire de neuf sur l'éditeur ? Une des trois figures emblématiques de l'histoire de l'édition, cela signifie qu'il est effectivement, comme on dit aujourd'hui, incontournable. Mais ça ne suffit pas. Regardons-le débuter dans l'édition comme associé d'un grand éditeur, Paulin, qui ne fut pas simplement un éditeur de livres romantiques, de beaux cartonnages, de beaux livres, mais qui fut également un des premiers à s'intéresser à une manière d'élargir le public à une époque où le livre coûte beaucoup trop cher pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. Je fais allusion à ce qu'on n'appelait pas exactement les fascicules comme aujourd'hui, mais qu'on appelait les livraisons. Paulin est l'un des premiers à proposer de découper effectivement un roman en un certain nombre, pour simplifier, je vais dire, de fascicules, de livraisons, mises sur le marché, en général une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, parfois deux fois par semaine, à un prix relativement bas. Quand on regarde d'ailleurs au total, le volume entier coûte un peu plus cher qu'il n'aurait coûté dans une version de librairie. Mais l'avantage du fractionnement, de l'étalement de la vente dans le temps, c'est qu'effectivement, à une époque où on est payé à la semaine et non pas au mois, où on est payé en général le samedi, la mise en vente des livraisons permet, eh bien, de prendre sur la paye de la semaine les quelques centimes. Ces livraisons ont démarré à 60 centimes, sont tombées à 30 centimes, 20 centimes, donc à des prix tout à fait raisonnables si on considère que 1 franc de l'époque, c'est à peu près 5 euros d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on peut effectivement acquérir dès le début des années 1830, en tout cas dans certaines catégories sociales, et pas nécessairement les plus riches, on peut commencer à acquérir un certain nombre de livres. Donc associé de Paulin, l'éditeur Pierre-Jules Hetzel a commencé à élargir la gamme des productions qu'il pouvait offrir au public. Il s'est intéressé aux livres religieux, dès 1843 aux livres pour enfants, et il a été un des premiers à vouloir effectivement proposer aux enfants autre chose que de la tisane littéraire, autre chose que cette littérature de gouvernante qu'il détestait et à laquelle il va consacrer une grande partie de sa vie. Hetzel va pratiquement être mis en faillite dès 1845-1846 et il va, lorsqu'il quitte la France au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il est de toute façon, il n'est plus éditeur et il est incapable de continuer à travailler dans Paris. C'est donc à Bruxelles que va démarrer la deuxième carrière de Pierre-Jules Hetzel. Elle est bien connue aujourd'hui par les travaux de la critique, je pense à Sheila Godon sur Victor Hugo, et puis tous ceux qui ont travaillé sur George Sand. Hetzel va s'intéresser aux œuvres complètes de George Sand, de Balzac et de Hugo à 20 centimes. C'est précisément le phénomène des livraisons, mais réunis ensuite en fascicules. Un fascicule, ça veut dire un roman, et un tome comprend plusieurs romans. En tirant ce qu'on a appelé les romans à 4 sous, c'est-à-dire à 20 centimes, en tirant à un prix extrêmement bas ce qu'on a appelé les romans à 4 sous, Hetzel et quelques autres éditeurs permettent effectivement d'élargir encore le lectorat. Les romans à 4 sous sont imprimés directement à 10 à 12 000 exemplaires et les œuvres complètes de George Sand ou de Victor Hugo tirées à 20 000 exemplaires. Ce n'est pas encore le lectorat de masse, ce n'est pas encore la culture de masse, mais tendanciellement, on se dirige vers une littérature de grande consommation ou de large circulation. L'adjectif populaire étant à éviter, puisqu'il est synonyme de beaucoup de confusion. À Bruxelles, Hetzel va également lancer des collections de tout petits romans, dans le format IN 32, qui permet d'échapper éventuellement à la censure. C'est le cas pour les œuvres interdites de Victor Hugo, interdites d'entrée sur le territoire. Pour Napoléon le Petit, on a un rapport de police extraordinaire à la frontière du Nord. Le moyen ingénieux de faire rentrer Napoléon le Petit avait été trouvé. On glissait les exemplaires de Napoléon le Petit dans des statuettes en plâtre de Napoléon le Grand, c'est-à-dire Napoléon Ier. Mais comme un jour, à la frontière, les statuettes en plâtre se sont renversées et se sont cassées, évidemment, les douaniers et les policiers ont arrêté le colporteur qui introduisait cette littérature, et on a la preuve que ce n'est pas une légende, ce n'est pas une invention apocryphe, comme le sont en général ce genre d'histoire, c'est une réalité, puisqu'il y a eu un procès et condamnation de ce colporteur. Bon, vous voyez, Hetzel était effectivement au centre de cette forteresse dont Victor Hugo voulait créer pour bombarder le Bonaparte, je cite Victor Hugo. En même temps, Hetzel est en association avec Michel Lévy pour d'autres collections. Il est devenu, comme le dit George Sand dans sa correspondance, et Victor Hugo également, il est devenu un agent littéraire. C'est le deuxième aspect de sa carrière d'éditeur. agent littéraire, il met en relation l'auteur avec d'autres éditeurs. Ne pouvant pas tout éditer à Bruxelles, il propose à George Sand d'éditer avec le directeur de la revue Les Deux Mondes, François Bulos, qui est en même temps un peu éditeur à côté de son activité de directeur de revue. Il propose d'éditer avec Michel Lévy, et c'est ainsi que George Sand entrera quelques années plus tard chez Michel Lévy Frère. C'est un intermédiaire, c'est une sorte d'agent littéraire avant même que le nom ne soit, que le terme ne soit utilisé. Il est à noter, parce que c'est peu connu, que George Sand, d'ailleurs, en 1857, insiste auprès de son ancien secrétaire Émile Ocante pour qu'il crée à Paris la première agence littéraire, l'Agence Générale de la Littérature. J'ai retrouvé le papier à lettres. Elle a fonctionné pendant un an et demi, en 1857-1858, l'Agence Générale de la Littérature. Elle jouait strictement le rôle des agents littéraires en Grande-Bretagne et aux États-Unis aujourd'hui, la mise en relation des écrivains avec les éditeurs. Mais comme Émile Ocante et son agence ne possédaient pas de trésorerie, il a été impossible de la maintenir. Et au fond, c'est l'une des grandes raisons qui permet de répondre à la question « Pourquoi est-ce que la France ne connaît pas aujourd'hui véritablement le développement des agents littéraires ?» En réalité, eh bien, la France a connu le phénomène, mais il n'a pas abouti, et par conséquent, les éditeurs ont repris la main, comme on dit dans les jeux de cartes, au bridge par exemple. Éditeur, agent littéraire, deuxième aspect, Pierre Juletzel, mais j'y insisterai peu, est également un écrivain. Un écrivain trop peu connu. Un écrivain considéré à tort comme simplement un écrivain pour la jeunesse, et donc du coup un peu déconsidéré. Aujourd'hui, la littérature pour la jeunesse est au contraire très considérée, elle est appréciée, elle est enseignée dans les écoles, dans les collèges, au moins jusqu'en troisième, mais demeure quand même une sorte de malédiction, ou en tout cas de jugement de valeur, qui fait que on n'étudie pas avec les mêmes règles ou avec le même soin, la même méticulosité, les grands auteurs de la littérature pour la jeunesse, ou en tout cas ceux d'entre eux qui ne sont pas aussi des grands écrivains. Je pense à George Sand, qui peut être étudié des deux manières. Du coup, l'écrivain Pierre-Jules Stahl, l'homme d'acier, c'est assez drôle quand on songe à d'autres hommes d'acier dans l'histoire, l'homme d'acier, le premier du nom, n'est pas suffisamment étudié. Je pense qu'il faudrait reprendre le corpus de ses œuvres et essayer de voir en quoi véritablement il innove par rapport à la production de l'époque pendant laquelle ses œuvres ont été publiées. Éditeur pour la jeunesse, auteur pour la jeunesse, Pierre-Jules ou Jules Hetzel a essayé de considérer, ou plutôt a considéré qu'il fallait prendre la jeunesse comme un lectorat exigeant, un lectorat qu'il fallait garder et qu'il fallait aider à se construire en tant que public lisant. C'est pourquoi il se montrait extrêmement sévère dans le tri des manuscrits, dans le choix des auteurs. Il suffit, mais vous les connaissez mieux que moi, de relire les lettres de Hetzel à Jules Verne pour voir quel est le degré d'exigence, combien il peut être séduit par un récit, par la trame, par un scénario en quelque sorte, et très sévère par rapport à la manière dont l'histoire est présentée, d'où les demandes renouvelées de correction. Et quand on regarde attentivement les manuscrits, on voit qu'il n'y a pas eu censure au sens de refoulement d'un message politique ou idéologique, comme l'ont écrit à tort un certain nombre de critiques dans les années 1980. Il y a même eu une tentative de publier Jules Verne, le Jules Verne, la Urquelle, diraient les Allemands, la source pure, le Jules Verne non rectifié par l'éditeur. Complètement imbécile, permettez-moi le terme au sens clinique de l'adjectif imbécile, car il n'y a pas, les écrivains n'écrivent pas de livres, ils écrivent des textes, et ce sont les éditeurs qui transforment les textes en livres, sauf dans les cas assez rares où les écrivains veulent être en même temps éditeurs. Mais dans la plupart des cas, ils remettent un manuscrit, et c'est le travail avec l'éditeur qui permet d'aboutir à ce qu'est le livre publié. Il suffit de regarder tous les travaux de génétique textuelle pour en être pleinement conscient. Ça ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu des éditeurs qui étaient en même temps des inquisiteurs, qui étaient des censeurs, qui aient voulu refouler une pensée politique. Bien sûr, cela existe, mais dans le cas de Jules Verne et d'Hetzel, je ne crois pas que ce soit cela qui soit majeur, même s'il est vrai que... par crainte parfois d'être que ces exemplaires soient refoulés à la frontière russe, Hetzel prend quelques précautions pour que le courrier du tsar soit Michel Strogoff plutôt qu'un terme qui peut-être pourrait être gênant. Mais en dehors de cet aspect, plus commercial d'ailleurs que politique, il n'y a pas à ma connaissance de censure. En tout cas, l'écrivain mériterait d'être pris au sérieux et de façon systématique. Ce qui est le troisième aspect. Je voudrais donc, pour ne pas allonger, revenir en conclusion sur ce que l'on peut dégager d'un tel parcours. On peut dire en grande partie que Jules Hetzel est atypique dans son siècle. Pourquoi ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire et ce qu'avaient cru d'ailleurs les maîtres d'œuvre de l'histoire de l'édition française, il n'a pas bâti une solide maison d'édition. La meilleure preuve, c'est qu'à la génération suivante, à la génération de Louis-Jules, son fils, eh bien, la maison avait périclité. Elle exploitait encore les œuvres de Jules Verne, mais pratiquement, elle n'avait plus grand-chose en portefeuille. Donc, dès 1914, c'est-à-dire 28 ans après la mort de Pierre-Jules Hetzel, la maison a disparu. Quand on regarde les comptes, comme je l'ai fait, de la société en nom collectif, dirigée par Jules Hetzel, on voit bien que toute sa vie, il a essayé de trouver des formules pour que des financiers importants, l'aident à construire sa maison. Il en a bien vécu. C'était un artiste, c'est un homme qui aimait la vie. Il avait une magnifique villa, effectivement, à Meudon. Il aimait passer ses vacances à Monte-Carlo. Il aimait faire des voyages. C'est un homme qui a bien vécu. Mais si on compare avec la mort de Michel Lévy, les deux fortunes n'ont rien de comparable. Celle de Pierre-Jules Hetzel est modeste dans ce cadre-là. Elle est à peu près 8 à 10 fois moins élevée que celle de Michel Lévy. Pour donner quelques exemples, Michel Lévy, quand il meurt en 1875, possède à la fois un magnifique appartement place Vendôme et il est en train d'achever la construction d'un splendide hôtel particulier aux Champs-Élysées. Il a son château à Gradignan près de Bordeaux et il a des terres planté en Pessac-Léognan, ce qui prouve d'ailleurs qu'il aime effectivement le bon vin. Si on regarde Louis Hachette, il a deux châteaux, pas tout à fait trois maisons comme Cadet-Roussel, mais un château dans lequel il vit au Plessis-Piquet, Plessis-Robinson aujourd'hui, et un autre château dans l'Orléanais. J'arrête là les comparaisons. La maison d'édition, si on la prend en tant qu'entreprise éditoriale que laisse Jules Hetzel à sa mort, est une maison de taille moyenne. C'est une maison qui gagne de l'argent, c'est une maison qui a un certain nombre d'auteurs dans son portefeuille, mais ce n'est pas une grande maison d'édition. Qu'est-ce qui est original ? C'est le fait d'avoir spécialisé son entreprise dans la littérature de jeunesse. Et pas n'importe quelle littérature de jeunesse, car si on veut établir des comparaisons, le catalogue des éditions Hetzel n'a rien à voir avec le catalogue des éditions MAM, avec le catalogue des éditions Lefort à Lille, avec le catalogue des éditions Mégard à Rouen, Ardan et Barbou à Limoges, ou Pelisse et Pélago à Lyon. Tous ceux que je viens de nommer font de la tisane, c'est de l'eau bénite, et encore de l'eau bénite qui a croupi dans le bénitier pendant trop longtemps pour qu'on puisse encore la consommer. C'est une tisane, effectivement, qui tombe des mains des enfants, que les enfants n'ont pas envie de lire. J'hésite à dire que parmi les auteurs ou les fabricants de cette tisane, il y a la propre grand-mère du général de Gaulle, mais c'est ainsi, c'est un de ses auteurs de littérature pour gouvernante des éditions Lefort. Non, Hetzel, lui, a pris la jeunesse au sérieux et il a proposé effectivement des romans qui permettent à l'enfant de s'évader, de rêver. Et vous le savez, toujours, comme dans son magasin, éducation et récréation, récréation et éducation. C'est-à-dire, eh bien, un peu comme dans ma jeunesse, pas de barre de chocolat sans avoir du pain dur, bien entendu, jamais de pain frais, car cela aurait donné de mauvaises habitudes. Hetzel est donc un grand éditeur, innovateur, un éditeur tout à fait différent des éditeurs de son époque, mais ce n'est pas un grand businessman. Je m'explique en utilisant la langue anglaise. Hetzel est un excellent éditeur, ce n'est pas un grand publisher. Mais après tout, l'histoire de la littérature et l'histoire de l'édition ont effectivement l'habitude de voir côte à côte des éditeurs et des publishers. Certains d'entre eux, rares, comme Louis Hachette, ont pu être l'un et l'autre, ou comme Michel Lévy. Au fond, même s'il a été publisher, Hetzel laisse un nom essentiellement parce qu'il a été un grand directeur de collection. Il a été un grand directeur de ses auteurs. Il a su nouer un dialogue, il a su travailler avec eux, il a su faire en sorte que les auteurs puissent donner le maximum d'eux-mêmes, puissent se dépasser, puissent transformer le premier jet de leur roman en quelque chose qui soit finalement beaucoup plus construit, beaucoup plus poli et qui permette effectivement à l'œuvre de se répandre dans le monde. Alors évidemment, tous les auteurs ne l'ont pas accepté de la même manière, mais Jules Verne est caractéristique de ces auteurs qui comprennent que l'éditeur n'est pas un censeur, mais que l'éditeur est un auxiliaire dont le dialogue intelligent permet effectivement d'améliorer l'œuvre. C'est un propos que Baudelaire, dont nous parlera Jean-Louis Steinmetz, évidemment, n'aurait pas supporté. Baudelaire, comme les frères Goncourt, considère que les éditeurs sont au mieux des banquiers et au pire des imbéciles sans aucune culture. Mais quand on regarde de très près d'ailleurs la correspondance de Baudelaire, c'est un jugement négatif à certains moments qui devient beaucoup plus positif quand il écrit à Michel Lévy qu'il y a en lui deux personnages, un homme du monde qui reçoit et que Baudelaire aime fréquenter, et puis un banquier, un homme d'affaires qu'il déteste. Donc même chez Baudelaire, qui ne supporte pas qu'on touche évidemment au moindre de ses poèmes, eh bien il y a quand même l'idée que l'éditeur n'est pas simplement quelqu'un à qui on apporte un manuscrit qui doit ensuite être remis chez l'éditeur. J'ai retrouvé une lettre qui montre, mais ce sera le seul exemple, je vais en avoir terminé dans peu de temps, Alexis de Tocqueville n'a jamais apporté à Michel Lévy le manuscrit de l'Ancien Régime et la Révolution, il a apporté le manuscrit de la Révolution. Et c'est après lecture que Michel Lévy... Est-ce Michel Lévy? Est-ce un de ses directeurs? On ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est Michel Lévy au sens collectif. C'est l'éditeur qui a dit, mais au fond, le contenu de ce manuscrit, c'est pas du tout la Révolution, c'est l'Ancien Régime et la Révolution. Et Tocqueville, au fond, a été tellement heureux de ce titre qui n'était pas de lui, qu'il se l'est totalement approprié. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on voit que dans sa correspondance, il considère que c'est lui qui l'a trouvé. Mais on est là, effectivement, dans une conception très romantique des rapports entre l'auteur et l'éditeur, il va de soi que l'auteur ne révèle jamais la part de collaboration qui revient à l'éditeur. De même que Victor Hugo, quand il accepte qu'un de ses vers des contemplations soit modifié par le prote, par le typographe, parce que, après avoir dialogué avec lui, après s'être énervé, Victor Hugo a reconnu qu'en effet, il valait mieux modifier légèrement tel vers. Victor Hugo ne va pas le révéler et mettre sur la couverture les contemplations Victor Hugo aidé de Noël Parfait. Ça n'aurait pas de sens. Quoique Charles Péguy, quand il était éditeur et pas simplement directeur des Cahiers de la Quinzaine, faisait défiler un peu comme dans les films aujourd'hui, effectivement, eh bien, toute la régie, tous ceux qui avaient participé. Donc, sans aucun doute, Jules Hetzel est un éditeur très particulier dans son siècle, un véritable homme de dialogue avec les écrivains. C'est aussi, deuxième aspect, un agent littéraire qui effectivement a su mettre en rapport les auteurs avec les éditeurs, faire en sorte que George Sand, mais je n'ai pas le temps de développer, à un moment de sa carrière, trouve dans Michel Lévy, qu'elle n'aimait pas du tout, qu'elle n'aimait vraiment pas au départ, l'homme qui saura comprendre qu'il a affaire à un grand auteur et qui l'aidera à publier ses romans, un agent littéraire, un écrivain et aussi, je vais terminer par là, un républicain, je le disais en introduction, qu'il serait utile de mieux connaître. Mieux connaître parce qu'il a publié des journaux républicains, je pense au Spectateur républicain, un journal de caricature qui annonçait le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte 3 ans avant qu'il ne soit perpétré, ça veut dire qu'il y avait, je l'ai écrit quelque part, c'est le coup d'État le plus médiatisé du siècle, et peut-être même des 2 siècles, parce que 3 ans avant, tout le monde sait que le coup d'État va avoir lieu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la date, évidemment. Mais Au fond, si Louis-Napoléon, si le prince Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas songé à faire un coup d'État, ses adversaires l'auraient incité à le perpétrer, puisque de toute façon, tout le monde s'y attendait. Donc, un républicain que, là encore, il faudrait mieux connaître pour essayer de le situer dans les trajectoires des républicains. On le considère comme plutôt modéré de la tendance de Lamartine, mais tout ça mériterait d'autres travaux. J'ai indiqué que la lecture, l'examen, l'étude approfondie du manuscrit de celui qui fut le secrétaire du gouvernement provisoire sous la Seconde République nous aiderait à mieux cerner le personnage. Merci.